Chapitre 12. Un rat, une saleté de rat. Henry James n'avait jamais filé personne, mais il découvrait vite que la technique était assez simple. Il lui suffisait de rester une centaine de mètres derrière Moriarty sur l'autre trottoir, de presser un peu le pas quand le professeur tournait dans une autre rue et de se dissimuler dans l'ombre des boutiques les rares fois où sa cible s'arrêtait. La filature était d'autant plus facile que Moriarty ne se retournait jamais, ni n'hésitait sur le chemin à suivre. Si James entendait le tapotement régulier du bout de la canne à pommeau d'argent du professeur, il savait qu'il était trop près et ralentissait pour ajouter une trentaine de mètres à la distance qui les séparait. Au bout d'environ une demi-heure de cette habile filature, James se rendit compte qu'il n'avait plus la moindre idée d'où il se trouvait. Il se souvenait d'avoir pris d'abord vers l'ouest, d'après la direction du soleil, puis Moriarty avait tourné à gauche vers le sud, puis de nouveau vers l'ouest, puis encore vers le sud, plusieurs fois de suite, ce qui les avait conduits dans un quartier de Washington qu'ils ne connaissaient pas. Il n'y avait plus de réverbères, plus de plaques de rue, et James éprouva un choc en s'apercevant qu'il n'y avait plus non plus de trottoir. Loin des beaux quartiers, des demeures fastueuses et des jolies boutiques, il se retrouvait dans une zone d'entrepôts en briques décrépies et de taudis. Ici, les rues étaient si étroites et si sales qu'elles méritaient à peine ce nom. Un brouillard verdâtre et nauséabond flottait sur les toits, épais, mais pas autant que celui de Londres. James se demanda si la poursuite de Moriarty l'avait conduit dans le quartier que John Hay nommait Foggy Bottom. Étrangement, et ce qui l'arrangeait bien pour ne pas attirer l'attention de sa cible, il y avait plus de monde et de véhicules dans ces ruelles boueuses qu'au centre de la ville. James remarqua que les passants se déplaçaient en groupe et qu'il s'agissait presque exclusivement d'hommes. Il ne vit qu'une ou deux femmes, mal vêtues, l'une prise de boisson et agressive, qui zigzaguait entre Jean et tombereaux au milieu de la rue. C'était surtout une population d'ouvriers, mal vêtus, mêlée à une autre faune, plus inquiétante et voyante, portant des costumes à rayures assortis à des gilets bigarrés du plus mauvais goût. Moriarty fendait la foule d'un pas régulier, sans regarder ni à droite ni à gauche. La multitude s'écartait devant lui comme les eaux de la mer Rouge devant Moïse. Comprenant que ses vêtements, sa canne et même sa façon de marcher étaient trop repérables dans ce quartier, Henry James s'arrêta sur le bas-côté de terre battue qui tenait lieu de trottoir, se disant qu'il était plus que temps de faire demi-tour et de retourner dans un quartier plus civilisé. Mais comment retrouver mon chemin? De quel côté aller? Et que faire si on s'en prend à moi? Alors que ces pensées effrayantes tournaient dans sa tête, James vit trois hommes aborder le professeur Moriarty. Ils ne se serrèrent pas la main, mais même à cette distance de presque 200 mètres, James comprit que les quatre hommes se connaissaient, ou plutôt que les malfrats connaissaient le professeur. C'étaient trois grands gaillards peu recommandables, aux Homburg malpropres, aux chaussures coûteuses mais crottées et étrangement pointues. Ils avaient beau être de beaux spécimens, épaules larges, gros bras et ventre rebondi, Moriarty était nettement plus grand qu'eux. Son visage émacié, son front protubérant, le dôme de son crâne parsemé de quelques mèches donnait au professeur l'air d'un élégant squelette entouré de voleurs de cadavres. Ils échangèrent quelques mots, puis tournèrent à gauche dans une allée. Se sentant observé par les groupes de malandrins autour de lui, James se décida à les suivre. L'allée dans laquelle il s'était engagé se révéla être un cul-de-sac. L'impasse était courte, et seul Moriarty et ses trois acolytes l'occupaient, se dirigeant vers un immense entrepôt sans fenêtre qui enfermait l'extrémité. James s'arrêta à l'entrée de cette voie et recula pour se mettre hors de vue. Bien lui en prit, car une seconde plus tard, l'un des trois gaillards tourna la tête. Lorsque James rassembla assez de courage pour jeter un nouveau coup d'œil dans l'allée, il vit que deux des hommes tiraient une lourde porte coulissante pour l'ouvrir. Un grondement de voix provenant d'un grand groupe, d'hommes ou d'animaux, c'était impossible à dire, s'échappa par l'ouverture, mais cela ne dura pas. Moriarty entra à la suite des deux premiers gaillards, puis le troisième regarda de nouveau derrière lui, sans voir James qui venait de reculer. L'instant d'après, la porte se refermait en roulant sur son rail. Il y avait une autre porte de taille ordinaire à une dizaine de mètres sur la droite, mais James ignorait si elle donnait sur le même hangar. Elle était d'ailleurs sans doute fermée à clé. Sans bouger du coin de la rue, James tergiversait. C'était bien le meilleur terme, songea-t-il. Il tergiversait. Que faire? Il pourrait quitter ce quartier sordide où, puisqu'il n'avait aucune idée du chemin à suivre, donner quelques sous à un gamin pour faire parvenir un message à Holmes dans la boutique de cigares. Mais son appel mettrait trop longtemps à atteindre Holmes pour permettre au détective de le rejoindre avant que le professeur ne ressorte de l'entrepôt. et Henry James ne se sentait pas le courage d'attendre. Et puis Holmes lui avait menti en prétendant que le professeur James Moriarty n'existait pas. Il avait prétendu que ce grand criminel n'était qu'un produit de son imagination, inventé uniquement dans le but de justifier la prétendue mort de Holmes et sa disparition. Or, c'était faux. James avait pu constater que Moriarty était bien réel sur la photo datant de 1892, prise à la conférence de mathématiques de l'université de Leipzig, et maintenant il venait de le voir en personne. Alors, que faire? Il pourrait battre en retraite et aller alerter un agent de police. Mais de quel crime pouvait-il accuser Moriarty? James avait seulement vu le professeur marcher dans la rue et tourner dans une impasse, certes, mais peu importait, et il ne connaissait rien d'autre de cet homme que sa très légitime qualité de mathématicien et physicien anglais. Ce serait James plutôt que la police risquait d'arrêter pour plainte abusive. La décision logique et prudente aurait été de faire demi-tour pour sortir immédiatement de ce quartier dangereux. James avait dans l'idée qu'en se dirigeant vers le nord-est, il finirait par sortir de Foggy Bottom. Mieux valait certainement rentrer dans la confortable demeure des Hayes et cesser de penser au professeur Moriarty. S'il devait revoir Sherlock Holmes, il lui raconterait cette amusante anecdote et lui dirait qu'il avait croisé le vrai Moriarty à Washington. C'était la seule chose sensée à faire. James respira profondément deux fois, puis entra dans l'impasse. Il se dirigea vers l'entrepôt en espérant un peu plus à chaque pas que la porte coulissante ne s'ouvrirait pas. Et si Moriarty et ses trois acolytes sortaient au moment où il atteignait la porte? On pouvait difficilement prétendre s'être perdu au bout d'un cul-de-sac. La porte coulissante ne s'ouvrit pas. James alla tenter sa chance avec la plus petite porte en bois à sa droite. Il posa la main sur la poignée métallique et pria pour qu'elle ne tourne pas. En toute logique, elle devrait être fermée. Cela ressemblait à une porte de bureau et non à l'entrée d'un endroit bruyant tel que l'entrepôt où Moriarty et ses canailles avaient pénétré. Dès qu'il se serait assuré que la porte était bien fermée à clé, James s'autoriserait à repartir, vite mais dignement, sachant qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir ce que manigançait Moriarty. La porte s'ouvrit. James poussa lui, prêt à tourner les talons pour fuir s'il entendait du bruit ou voyait quelqu'un. À l'intérieur, il faisait très sombre. Le ray de lumière grise venant de l'extérieur ne montrait qu'un ray d'escalier s'élevant droit devant lui. Une épaisse couche de poussière couvrait les marches, indiquant qu'il ne devait pas être souvent emprunté. James entra et attendit que ses yeux s'habituent à l'obscurité. L'étroit escalier s'élevait entre deux murs humides et sombres. Il se perdait vite dans l'ombre, il aurait aussi bien pu s'arrêter à mi-étage tant on n'y voyait rien, mais une fois que James se fut accoutumé au manque de lumière, il s'aperçut qu'une lueur émanait d'une applique à gaz fixée au mur du premier palier. Il entreprit de monter sur la pointe des pieds, tâchant de ne pas faire le moindre bruit, redoutant les craquements des vieux escaliers, mais il se rendit vite compte qu'à cette allure, il lui faudrait une éternité pour arriver en haut. Et puis ses marches étaient massives, elles ne grinçaient pas. La poussière aussi amortissait ses pas. James prit le parti de monter normalement, enfin presque, car il ne pouvait s'empêcher de faire d'abord peser son poids sur l'avant du pied. Dans la partie la plus sombre de la montée, et en l'absence de rampe, il appuya les mains à plat sur les murs de part et d'autre. À chaque marche, il explorait la suivante du bout de la chaussure avant de continuer. Cette précaution devint inutile quand il entra dans la zone chichement éclairée par l'applique à gaz. Il ne trouva rien de particulier sur le palier, rien qu'un étroit espace sans porte ni fenêtre. Il vit qu'une autre volée de marche tout aussi raide s'élevait en tournant vers la gauche, dominée par une autre lumière tout aussi pâle. Il compta quatre paliers poussiéreux et mal éclairés, avant d'arriver en haut et de voir une porte sur sa droite. La moitié supérieure était vitrée par du verre dépoli. James regarda vers le bas. Il ne vit que les empreintes de ses pas dans la poussière. Il posa la main sur la poignée de porcelaine ébréchée. La porte était verrouillée. James tenta de la débloquer, tournant de toutes ses forces, et poussa même avec l'épaule. Il songea qu'il pourrait se servir de sa canne pour briser le carreau et entrer, mais il rejeta aussitôt cette idée. Le bruit de verre brisé pourrait attirer la bande du professeur Moriarty. Il s'apprêtait à redescendre quand le mur de gauche face à la porte attira son attention. Une rumeur bourdonnait derrière. C'était le vacarme indistinct d'une foule bruyante, comme les bavardages du public avant le début d'une pièce de théâtre, mais moins polissée, plus rude. S'il s'agissait de spectateurs, c'était ceux d'une vulgaire représentation de vaudeville. Une trappe de visite rectangulaire se découpait dans la cloison de bois. James s'accroupit et vit deux larges loquets qui retenaient le panneau de bois dans les coins supérieurs. Il les fit pivoter en position horizontale, le panneau sortit de son logement et lui tomba dans les mains. La rumeur devint soudain beaucoup plus distincte. De la lumière filtrait à travers ce qui semblait être un plancher. James remit le panneau en place et ferma les loquets, puis il se redressa pour aller tourner la manette qui éclairait l'applique à gaz. La porte vitrée laissait passer juste assez de lumière pour lui permettre de retrouver la trappe et ses loquets. Les ayant de nouveau ouverts avec mille précautions, il retira le panneau et le posa par terre. Cela fait, il glissa la tête et les épaules par l'ouverture. Il vit devant lui non pas un plancher, mais de larges poutres, d'une largeur de bien 50 cm, qui filaient face à lui et formaient l'assise de la charpente au-dessus d'un grand vide. Les poutres étaient espacées d'environ 4 mètres, et un peu plus bas sous elles s'alignaient des solives ordinaires supportant un grillage métallique. Un faux plafond de toile ou de papier mâché était accroché à ce grillage, jonché de petits amas blancs ressemblant à de la neige. James comprit qu'il venait de pénétrer dans les combles spacieux de l'entrepôt où Moriarty et ses hommes étaient entrés. Le faux plancher n'avançait que de 3 mètres devant lui et s'arrêtait sur le vide, laissant passer la lumière et le bruit. James entendit les vociférations d'une grosse voix qui tentait de dominer le brouhaha. Pour voir ce qui se tramait en bas, il n'avait d'autre solution que de ramper sur la poutre qui lui faisait face. Il laissa sa canne sur le palier et entreprit d'avancer à 4 pattes. Il avait l'intention de s'arrêter avant de dépasser le faux plafond, mais cette position ne lui permettant pas de voir grand-chose, il continua encore un peu. Il dut s'exposer jusqu'aux genoux et ne laissa que le bas de ses jambes et ses pieds dans l'ombre. Il voyait enfin ce qui se passait dans l'entrepôt. À environ 20 mètres au-dessous de lui, sur un plancher de bois couvert de sciure, s'agglutinaient beaucoup de gens, uniquement des hommes. Il dut s'agripper à la poutre en y plantant ses ongles et en serrant les genoux, saisi par une horrible appréhension. Il y avait cependant peu de chances qu'il soit vu. L'entrepôt était brillamment éclairé par des lampes à arc chapeautées de métal, qui, étant suspendues aux solives par de longues tiges, n'éclairaient pas le haut. Toute personne regardant en l'air devait être éblouie et ne rien voir dans l'obscurité des combles. James s'allongea à plat ventre sur la poutre et tâcha de calmer sa respiration haletante tout en observant ce qui se déroulait en bas. Il y avait une bonne centaine d'hommes, tous assis sur des barriques et des cageots et rassemblés par groupes. James leur trouva à tous des airs de bandits, mais en tâchant de repérer les différences entre les tribus qu'ils formaient, il en distingua une trentaine qui semblaient n'être que de simples ouvriers. Il entendit que ces hommes-là se parlaient surtout en allemand. Les autres gredins hurlaient à plein poumon un anglais d'Amérique des plus vulgaires. Ce public faisait face à une estrade. En voyant une balance métallique reléguée à l'arrière, James comprit que la matière neigeuse accumulée sur le faux plafond devait être du duvet de poule et que l'entrepôt avait servi à la préparation de volailles. Cela expliquant également la puanteur qu'il avait précédemment attribuée à l'hygiène douteuse de l'assemblée. Deux personnes occupaient la scène. Le professeur James Moriarty, à l'arrière, avait pris place sur un siège à haut dossier. L'autre, un gros bonhomme, cigare au bec, chapeau melon incliné sur l'oreille à la manière des malfrats, criait pour obtenir le silence. L'assistance finit par se taire et lui prêter attention.
« Parfait. Tous les gangs les plus importants de la ville sont présents, et personne ne s'est encore entretué !»
beugla-t-il.
« C'est déjà un progrès !»
Personne ne rit. L'un des ouvriers allemands traduisit pour les autres.
« Culpepper est pas là !»
cria une voix dans la foule.
« Il s'est fait buter, Culpepper !»
lança un autre.
« On l'a balancé de 10 mètres de haut ! Il est tombé pile sur sa grosse tête !»
Cette remarque déclencha l'hilarité générale. Le bonhomme sur l'estrade tâcha d'obtenir le silence.
« Bon, en attendant que la bande de Culpepper arrange la succession, nous, on va avancer sur notre projet et on les informera plus tard !» « Eh ben c'est quoi ce projet à la fin ?»
cria un homme bedonnant dans les premiers rangs.
« Nous, tout ce qu'on a entendu, c'est qu'il va y avoir du flouze, mais on sait rien d'autre !»
Avant que le maître de cérémonie ait le temps de répondre, un gaillard sur le devant du groupe des Allemands cria
« Je ne vois pas ce qu'on vient faire ici avec ces criminels !»
Tollé général et rire de la part des concernés aux cris de criminels renvoyés à l'Allemand par dérision. Tous ne riaient pas et cela ouvrirent des crans d'arrêt. Sur l'estrade, l'orateur fit de grands gestes pour rétablir l'ordre.
« Comme vous le verrez dans une minute, nous avons besoin des anarchistes pour socialistes !»
corrigea l'ouvrier allemand qui venait de parler.
« Des socialistes anarchistes !»
rectifia l'orateur.
« Pour que le plan réussisse, on a besoin d'eux. Le professeur James Moriarty va vous expliquer tout ça. »
Il fit signe à Moriarty qu'il lui donnait la parole et alla s'asseoir pendant que le professeur se levait et avançait posément vers le devant de la scène.
« Messieurs, »
commença Moriarty. Quelque chose dans son physique, sa maigreur, son visage émacié aux yeux enfoncés, fit aussitôt tomber un complet silence sur l'assistance.
« Aucun d'entre vous ne m'a encore vu, mais vous connaissez tous mon nom. Au cours des deux dernières années, mes conseils ont permis à toutes vos organisations de se remplir les poches comme jamais. »
Une rumeur sourde s'éleva, une approbation générale comme le comprit clairement James. Moriarty n'eut besoin de lever que deux doigts et le silence se fit.
« Le mois prochain, » reprit le professeur d'une voix qui portait sans forcer, « nous allons, vous et moi, tous ensemble, récolter plus d'argent que vous ne pouvez rêver, une fortune encore inégalée dans la longue histoire de la criminalité. »
Le silence se prolongea brisé par le cri vibrant d'un sceptique.
« Comment ?»«
À midi tapant le 1er mai, » dit Moriarty, « le président des États-Unis va appuyer sur le bouton qui doit allumer l'électricité à l'exposition universelle de Chicago et mettre en marche les attractions. 100 000 personnes doivent assister au spectacle. » Une seconde après ce geste, le président Cleveland sera assassiné, abattu avec un fusil de précision par le plus grand tueur à gages de tous les temps.
On aurait entendu voler une mouche.
Dans le quart d'heure qui suivra, continua Moriarty, le vice-président des États-Unis ainsi que le secrétaire d'État et le procureur général seront tués, eux aussi. L'excellente préparation de cette opération nous assure une totale réussite.
Ensuite, dans un intervalle rapproché, les maires et chefs des polices de Chicago, Washington, New York, Baltimore, Philadelphie, Boston, Cincinnati et plus de 8 capitales européennes seront aussi liquidés.
Et en quoi ça va nous rendre riches ?
S'exclama une voix à l'arrière. Moriarty sourit, même depuis son perchoir. Henry James vit quelle expression vraiment terrible cela lui donnait et, tremblant, il dut se raccrocher à sa poutre.
« Nos amis anarchistes, socialistes, partout ici et en Europe, »
reprit Moriarty en désignant les ouvriers allemands,
« passeront à l'attaque à un certain signal pour mettre hors d'état de nuire les polices de Chicago, Washington, Boston, Londres, Berlin, toutes les villes que j'ai mentionnées tout à l'heure et d'autres. Les forces de police seront prises en embuscade à des endroits déterminés. Nos amis anarchistes auront un arsenal à leur disposition. Des fusils, des pistolets, de la dynamite par kilo, des grenades, le tout orchestré à la seconde près. Ces attentats simultanés du 1er mai, en commençant par l'exécution publique du président des États-Unis d'Amérique, donneront aux événements de Haymarket Square des allures de petites répétitions minables.
Soudain, le nez chatouillé par le duvet accumulé partout autour de lui dans les hauteurs, James eut une envie irrépressible d'éternuer. Il se pinça le nez et pria pour que ça passe.
« Et nous ?»
demanda un homme sous le choc qui ne sut comment continuer.
« Vous voulez savoir quel sera votre rôle ?» termina Moriarty.
Le sourire inquiétant revint sur son visage cadavérique. James vit, par-dessus la main qui tenait son nez, que dans les premiers rangs, les bandits reculaient pour mettre plus de distance entre eux et le professeur.
Il suffit de couper les têtes de l'hydre de ces gouvernements oppresseurs, les têtes de ces serpents,
clarifia-t-il pour les moins éduqués.
Il suffit de tuer les maires et les responsables de la police et du gouvernement pour créer un désordre infernal. Dans la confusion générale, vous aurez le champ libre pour faire votre travail. Vous allez tout piller.
Il s'interrompit et la langue qui passa entre ses lèvres ressembla à celle d'un reptile.
Mais pas au hasard, pas sans préparation.
Vous visiterez en priorité les plus riches demeures de New York, Chicago, Washington et Boston et d'ailleurs, les grandes banques, les dépôts d'or. Vous suivrez un plan établi par moi et que je vais bientôt vous livrer. Un plan qui ne peut pas échouer. Un rugissement d'admiration monta.
« Putain !»
cria un malfrat.
« Ce sera comme les émeutes de la circonscription de New York, mais sans cette saloperie d'armée pour nous réprimer !»
James se souvenait bien sûr de ce qu'avaient été les émeutes de 1863. Peu de temps après la bataille de Gettysburg, une conscription générale avait été imposée à New York. Jusque-là, il n'y avait que des engagés volontaires dans l'armée nordiste. Et les gangs de rue et les organisations criminelles, surtout chez les Irlandais, s'étaient soulevés lors d'une insurrection qui avait duré des jours. Les maisons des plus riches familles new-yorkaises avaient été mises à sac, les femmes violées, l'argent, les œuvres d'art et les meubles pillés. Des quartiers entiers avaient été incendiés. Une bande d'Irlandais avait mis le feu à un orphelinat pour enfants noirs, juste pour le plaisir, et causé la mort de plusieurs d'entre eux.
« Ce sera les émeutes de New York, mais multipliées par 1000 !»
promit Moriarty en haussant la voix pour couvrir le brouhaha.
« Et vous avez raison.
Cette fois, l'armée américaine ne sera pas rappelée des champs de bataille pour venir en renfort à la police locale et à la milice dépassée par les événements et moins bien armée. Le butin sera colossal. » Il avait terminé. Il retourna à son siège. Et puis, au milieu du vacarme, un homme armé d'une carabine se leva d'un bond et leva le doigt vers la charpente, montrant exactement l'endroit où Henry James s'agrippait à la poutre, tâchant de se faire tout petit.
« Un rat !»
hurla le bandit dans l'euphorie générale.
« Une saleté de rat !»
Avant que James n'ait même le temps de songer à reculer, l'homme leva sa carabine et la pointant droit sur lui à 20 mètres dans les airs, il tira. 5 ou 6 de ses camarades armés sautèrent comme lui de leur chaise et tirèrent sur James.